Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est ce matin dans Mediapolis, deux grands spécialistes des affaires internationales mais qui portent aussi leur regard sur la France. Il est riche ce regard, il est contrasté, c'est Bernard Guetta, écrivain et journaliste, et Vincent Hervouet, éditorialiste à Europe 1 et LCI. Et pour commencer, déjà Hervouet met la pagaille en me coupant la parole, mais c'était
bonjour
prévu.
Olivier.
Bonjour Vincent.
Bonjour, bonjour Olivier.
Bonjour Bernard. Allez messieurs.
Ah ça commence bien. Bon.
Et au moins c'est tout de suite joyeux. Cantelou s'il vous plaît.
Emmanuel Macron était donc hier avec un millier de jeunes dans la Saône-et-Loire. Nos équipes étaient sur place.
Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bonjour à toutes et à tous, les jeunes. Nous allons commencer, s'il vous plaît. Alors, attendez, non, doucement. Qui commence? Le jeune homme là-bas, prends le micro, prends le jeune... Non, à côté du boutonneux, non. Ça c'est pas des... Non, ça c'est des comédons, je sais quand même reconnaître. Puis quel est le comédon qui brille? Voilà, vous. Allez-y, vas-y.
Oui, bonjour monsieur le président. Bonjour. Voilà, je suis au lycée. Et c'est vrai qu'on n'est pas rassuré par l'état du monde du travail. On est... comment? On est un peu perdu.
Mais écoute, je te comprends. Tu me permets que je te tutoie. Vous savez, les enfants, il n'y a pas si longtemps, j'étais à votre place. C'est vrai qu'au lycée, on ne sait pas forcément quoi choisir. On ne sait pas trop où on va. Bon, d'abord, soyons honnêtes. C'est vrai qu'en cours, on a l'esprit ailleurs. La prof vous parle du sacre de Napoléon. Et puis, on écoute, mais on est plongé dans d'autres choses, d'autres passions. Les pages saumon du Figaro, C'est normal, on est adolescent. On pense au CAC 40, au Dow Jones, on est des foufous.
Ouais, enfin, moi, je pense surtout d'avenir.
Oui, c'est normal, c'est légitime. À votre âge, on se pose des questions sur l'avenir, sur la vie, car on grandit. On se demande comment faire fructifier une PME, à quoi ressemblera ma future startup nation. Et puis, que voulez-vous que je vous dise? Il faut s'accrocher. Alors, peut-être, si une autre question, on peut parler de tous les aspects de la vie, les enfants, hein, n'ayez pas peur. Il y a celui avec une casquette à l'envers, là, vas-y.
Oui, bonjour, monsieur le président.
Non, non.
Je m'appelle Jean-Kevin. Je suis un jeune lyonnais. Voilà, une question un peu délicate à vous poser, je suis désemparé. Je me suis séparé de mon petit ami il n'y a pas longtemps.
Oh non.
Et je me demandais, faut-il le reconquérir? A-t-il vraiment compris qu'il a eu tort? Est-ce qu'il regrette en son fort intérieur?
Non, franchement, Gérard. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Bon, est-ce qu'on peut donner le micro à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Voilà, la jeune fille avec l'appareil dentaire. Allez-y, mademoiselle. Bon, allez-y, Julie, je prends ce son d'intérêt.
Bon, c'est bon, on va vous laisser. Hein. Merci à tous.
Donc, c'était Nicolas Cantelou hier sur Europe 1, évoquant la rencontre dans le grand débat du président de la République avec les jeunes, puisque c'est le deuxième récit dominant avec les Gilets jaunes depuis plus longtemps dans ce pays. Je signale d'ailleurs que c'est le premier samedi où à cette heure-ci, sur aucune des chaînes d'info, vous n'avez les Gilets jaunes. Comme c'est la première fois depuis 3 mois, on peut célébrer, célébrer cet événement. Alors ma question, messieurs, à vos yeux, ces moments du président de la République, avec des publics divers, d'échanges pendant des heures et des heures, est-ce que c'est une forme de débat démocratique ou est-ce que c'est un grand show? Et m'est avis que vous n'êtes pas forcément complètement d'accord. On va commencer par Vincent Hervouet.
Ah bon?
Eh oui.
Bon. Écoutez, moi j'ai souvenir du président... D'abord, je salue la remarquable imitation de Cantelou qui est formidable.
Oui. Mais j'ai c'est souvenir, pas ma question. Hein.
Non, mais j'ai souvenir du président se livrant pour la première fois à cet exercice. C'était à la fac de Ouagadougou, à l'occasion de son voyage au Burkina. Il était extraordinaire parce que dans la chaleur de cet amphithéâtre, hein, où jamais aucun responsable politique, d'ailleurs, burkinabé n'avait mis les pieds, il était, comment dire, plein de lui-même, pour pas dire ivre de lui-même. Il répondait aux questions, il avait tombé la veste,
il avait
était époustouflant.
Oui.
Et je le regardais, je pouvais pas m'empêcher de penser, réellement, aux lycéens qui, sur l'estrade du bahut d'Amiens, ils cherchaient à impressionner sa prof de théâtre. Et puis vous savez comment c'est terminé, Il y a eu l'épisode du climatiseur.
Quand le président,
le président burkinabé a été envoyé, est sorti parce qu'il était mis en cause, il n'était pas content. Là-dessus, le président Macron a chauffé un peu plus la salle en disant « Mais reste là, il va réparer le climatiseur, maintenant il est parti, regardez. » Bon bref, en se moquant et en le raillant. Sur le coup, d'ailleurs, l'Élysée a prétendu que ça n'avait aucune importance, que c'est très amical. Le Burkina depuis a sombré dans un espèce de chaos lent.
Non mais pas à cause de ça.
Attendez,
quand même,
attendez. Non mais quand le président Macron est sur place, outre le fait qu'il exalte la salle, il vient finalement lancer le G5 Sahel, qui est une idée intéressante, mais qui mettra, je sais pas, trois générations peut-être à se réaliser. En tout cas, c'est pas la solution pour le Sahel aujourd'hui.
Je vous interroge sur Macron et ses débats, vous me répondez G5 Sahel et Ouagadougou.
Ce que je veux dire, c'est que la posture du président qui avait fait un tabac à l'occasion de ce débat au Burkina, n'empêche pas que cette semaine, il y a eu 5 gendarmes assassinés, des civils tués, et que le chaos du Burkina ne cesse de s'aggraver au fil des mois, alors qu'on est incapable d'y répondre. Voilà. C'est-à-dire que la prouesse du président Macron n'a pas empêché
le
naufrage lent de continuer. Il était incapable d'apporter une réponse à la question qui se pose au Burkina.
Donc, si je vous comprends bien, le naufrage s'annonce en France à la fin de ce grand débat.
Je n'ai pas dit ça.
Bah, vous n'avez pas dit ça, mais vous faites un rapprochement tellement
professeur Duhamel,
que j'essaie désespérément d'y trouver du sens.
Non, c'est un peu une caricature.
Le rapprochement de Vincent n'a rien de saugrenu, pardon Olivier, mais je ne suis pas d'accord avec votre conclusion. Mm-hmm. Parce que il me semble quand même que depuis au moins quelque chose comme trois semaines, on va dire, Emmanuel Macron a entamé une remontée, à la fois dans les sondages, ça c'est absolument pas tort, mais dans l'opinion. Il me semble que ça s'entend. On ne parle plus tout à fait du président de la même manière qu'il y a encore 4 semaines, ou en tout cas 1 mois. Donc cet homme est aujourd'hui, par la magie du verbe, parce que vous avez raison Vincent, ce n'est que le verbe, mais par la magie du verbe, il est en train, peut-être, on va voir, de transformer la donne. Alors on va voir. Oui. On va voir, et ça dépendra de quoi, principalement, de ce qu'il fera du résultat de ces débats. Référendum, pas référendum, quelles questions il posera, quelles propositions de réforme il fera ou ne fera pas. Mais pour l'instant, c'est plus la même atmosphère. Et d'ailleurs, Olivier l'a noté tout à l'heure en ouvrant notre discussion. Bah voilà, sur aucun des écrans des chaînes en continu, il n'y a aujourd'hui les Gilets jaunes.
Enfin là, il y en a un qui vient d'apparaître, parce que ça va très
autant
vite.
Autant pour moi.
Bon, eh bien, pendant ce temps-là, je peux quand même avoir une toute petite chance que vous répondiez brièvement à ma question. Est-ce que vous pensez que ces débats sont un élément en France, là, aujourd'hui, de ce que font Macron, ce que fait Macron?
Est-ce que c'était, pardon, quelle est la question précisément? Je n'ai pas compris. Je ne comprends même plus les questions.
Je comprends mieux, vous n'y avez pas répondu.
C'est terrible. Est-ce que c'est un
élément du débat démocratique?
Mais je pense que c'est, pardonnez-moi Olivier, mais je ne pense pas que ce soit une vraie question. C'est un show et c'est sans doute un élément du débat.
Eh ben voilà, donc ce n'est pas une vraie question, mais j'ai une vraie réponse, c'est l'essentiel. Alors il y a une autre affaire, il y a un autre moment important dans l'actualité qui est venu perturber la semaine et forcément de près ou de loin le président de la République. C'est une nouvelle affaire Benalla, une affaire Benalla qui n'a plus rien à voir avec la première. On y vient dans quelques instants.
Comme tous les samedis, on vous retrouve, Olivier Duhamel, dans Mediapolis. Et alors aujourd'hui, à vos côtés, il y a Bernard Guetta, écrivain et journaliste, et Vincent Hervouette, éditorialiste à Europe 1.
Et comme tous les samedis, ou presque, il y a un rebondissement dans l'affaire Benalla. Mais celui-là n'est pas une mince affaire. Écoutez ce qu'en disait l'éditorialiste d'Europe 1, Jean-Michel Apathy, hier matin.
Jamais personne n'a à ce point fragilisé un pouvoir sous la Ve République. Des multiples rebondissements. Est-ce qu'on est au début d'une affaire d'État? Il faut éclaircir évidemment cette histoire. L'affaire Benalla pouvait paraître à certains non pas une affaire d'État, mais une affaire d'été. Oui. Peut-être qu'il faudra réviser le jugement et que nous sommes en face d'une affaire d'État. Pardon, voilà, je mélange. Voilà. On est dans la brume. On est sûr que ça va s'éclaircir un jour, on ne sait pas quand. On serait aux États-Unis, le tournage du film aurait déjà commencé.
Bien sûr.
On est en France, on attend de comprendre ce qui se passe.
Apathy hier matin. Alors, je ne vais pas résumer toute la nouvelle affaire parce que c'est trop complexe. Le cœur des choses, c'est que alors qu'il était encore à l'Élysée, le conseiller du président, un des conseillers du président responsable pour part de la sécurité, Alexandre Benalla, en même temps, construisait un système de société pour passer des contrats de protection et de sécurité d'un oligarque russe, 16e fortune de Russie, et ceci avec le responsable de la sécurité d'En Marche. Et les deux ont été pris en train de parler sur les ennuis qu'ils pouvaient avoir avec tout ça et le moyen de les éviter par un enregistrement, probablement illégal de surcroît, fait le 26 juillet dernier, mais rendu public le 31 janvier. Est-ce que c'est une affaire d'État, Bernard Guetta ?
Ah, ça le devient. Pour moi, jusqu'à présent, l'affaire Benalla était une affaire d'État, pour reprendre les mots de Jean-Michel Apathy. Là, on est devant une affaire d'État. Pourquoi ? Parce que si, par chance, par bonheur, Benalla n'avait pas été pris en train de tabasser des manifestants dans le 5e arrondissement de Paris avant l'été, nous aurions aujourd'hui une taupe des services russes, non seulement à l'Élysée, mais à Matignon. Pourquoi ? Parce que la 16e fortune de Russie est évidemment liée au Kremlin et aux services secrets. Ça va de soi à Moscou. S'il a fait signer un contrat en totale illégalité à M. Benalla, alors qu'il travaillait toujours à l'Élysée, il tenait M. Benalla. Et donc, nous aurions eu un homme tenu par les services russes à la tête, ou en tout cas à un niveau élevé des services de sécurité du palais présidentiel.
Allez, ça aurait pu juste être... un petit bémol. Vous pouvez pas dire la même chose pour Matignon, parce qu'il s'agissait seulement du compagnon de la chef de sécurité. Quand même,
l'homme
en question n'était pas présent à Matignon.
D'accord, mais écoutez, quand on est le compagnon de la chef de sécurité, il y a quand même un certain lien.
Oui, d'accord.
Maintenant, ça ressemble à un réseau. Qui dit réseau, dit complot. Qui dit complot, dit conspiration. Qui dit conspiration aux États-Unis, vous auriez déjà le procureur Mueller qui serait en train de perquisitionner et Matignon-Élysée.
Là, c'est vous avez histoire... le parquet financier non, de Paris
mais...
qui a ouvert l'enquête.
Oui, je sais, mais il y a déjà eu la perquisition en plus. Bon, mais... C'est une affaire, je ne sais pas si c'est une affaire d'État, c'est une affaire têtue en tout cas, et c'est une affaire extravagante, parce que franchement, il y avait déjà un escroc israélien avec lequel ce monsieur Benalla s'était accoquiné pour sillonner l'Afrique pendant 3 mois, avec des passeports diplomatiques,
mais
un jet...
Mais là, il n'était plus à l'Élysée.
Non, il n'était plus à l'Élysée, mais bon, d'accord. Vous avez quand même...
C'est quand même une affaire étrange. Qu'il ait raison, oui.
Si vous êtes capable de m'expliquer quels étaient les intérêts qui étaient en jeu, je suis heureux de vous entendre. Il y a donc, c'est une affaire avec des voiles multiples, et qui exhale un parfum de corruption à la fois très vieux monde et en même temps une impunité qui laisse effectivement pantois. Parce que c'est un mirobolant, ce Benalla, il tchatche magnifiquement, c'est les tribulations du tchatcheur en Afrique qu'on a vu, notamment au Tchad, avec cette... on débarque du jet accompagné de ces gens infréquentables et on s'adresse directement au chef de l'État. On arrive 15 jours avant le nôtre. Tout ça laisse pantois. Il n'y a pas de contrat, a priori, qui soit en jeu ou s'il y en a, on se demande lesquels. Il a tout, il a toute la panoplie. Il a le gyrophare, il a le titre de lieutenant-colonel.
Pourquoi dites-vous impunité ?
Pardon,
pourquoi dites-vous impunité ?
Mais parce qu'il a passé
il est
quand même.
Parce
que vous auriez du mal, cher Bernard, à m'expliquer, vous connaissez un peu l'Afrique, vous auriez du mal à me faire comprendre comment est-ce que M. Benalla peut se présenter à la douane de N'Djamena avec un passeport diplomatique français sans que l'ambassade et les services français qui sont à N'Djamena comme à la maison ne soient au courant, par exemple. Ça, c'est l'impunité.
Non, c'est pas l'impunité. C'est une anomalie complète, évidemment, et le mot est faible, je vous l'accorde. Mais impunité, non. Il a été viré de l'Élysée pour le tabassage des manifestants, au bout d'un mois ou 3 semaines, je vous l'accorde. Mais quand même, il a été viré de l'Élysée.
Et ensuite,
heureusement qu'il l'a été, naturellement. Et ensuite, à chaque rebondissement, la justice intervient. Et dans le dernier rebondissement, qui à mes yeux est le plus sérieux, si ce n'est le seul vraiment très sérieux, dans le dernier rebondissement, bah mon Dieu, la justice est saisie.
Vous pensez que vous pouvez vous promener dans l'Afrique francophone à l'occasion de 20 voyages en juillet, en août, septembre, octobre, novembre et décembre, sans que jamais les services diplomatiques français, les services français ne réalisent que vous passez les douanes avec votre passeport diplomatique,
Vincent qui est normalement Vincent interdit. Ouais, si vous me permettez, il ne prétend pas que ça. Ce que dit Bernard Guetta, c'est que autrement plus grave, serait l'implication d'une personne travaillant à l'Élysée, dans le staff, dans le cabinet du président de la République, et en même temps signant des contrats.
Mais, non, mais on est d'accord là-dessus, on est évidemment d'accord.
Plus ou moins directement
le lien éventuel avec les mafieux russes ou les mafieux israéliens, tout ça est très intéressant. Et quand on parle, si on parle d'impunité, je dis l'impunité, c'est le fait de pouvoir circuler pendant des mois au nez et à la barbe nos services consulaires et diplomatiques avec des passeports absolument interdits.
De toute façon, dans l'extravagant, plus rien ne nous surprendra. L'autre épisode de la semaine, c'est un vice-premier ministre d'un des États fondateurs de l'Union européenne venant dans un autre État fondateur de l'Union européenne soutenir un mouvement qui demande le renversement du président de la République. Dans une série télé, on aurait dit non, ça je prends pas, ça va trop loin. Mais dans la réalité, c'est ce qui vient de se produire. On en parle dans quelques instants.
De 10h à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1, avec vous Olivier Duhamel, mais avec aussi Bernard Guetta, écrivain et journaliste, et Vincent Hervouette, éditorialiste à Europe 1.
Bon, alors on vous a épargné jusque-là les gilets jaunes, on va y revenir, mais pas sur le sempiternel acte 13, combien sont-ils et où. Je vois que malheureusement sur les chaînes info c'est revenu à 3 sur 4, nous on sature, mais en revanche on est bien obligé de traiter l'événement de la semaine, un des grands événements de la semaine, qui est le Premier ministre Di Maio rendant visite impromptu et non annoncé aux gilets jaunes. Écoutez ce qu'en ont dit successivement le porte-parole du gouvernement et l'ancien premier président du Conseil, président du gouvernement italien.
Quand on se rend, nous, à l'étranger, on a la diligence minimum de prévenir les gouvernements dans le pays dans lequel on se rend. Ça n'a pas été fait. On a rappelé notre ambassadeur pour avoir une consultation. Ça n'est pas un rappel permanent, mais il était important de marquer le coup.
L'approche du gouvernement italien, c'est une erreur incroyable et je crois qu'aujourd'hui, la décision de la République française, c'est absolument correct. Nous avons un gouvernement italien qui a beaucoup de problèmes pour la crise économique, qui est causée par la stupidité des populistes du gouvernement. Et c'est stupide l'approche qui va faire la guerre diplomatique entre l'Italie et la France lorsque nous avons la nécessité de faire une Europe ensemble.
À l'instant, Matteo Renzi chez Mathieu Béliard à Europe 1, sur Europe 1 jeudi. Et juste avant, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, vendredi chez Audrey Crespo-Marat, toujours sur Europe 1. Vincent Hervouette, ça vous amuse ?
Non, je remarque que quand le porte-parole du gouvernement français dénonce la lèpre populiste, on ne peut pas dire qu'il soit très diplomate, mais au moins il défend la position de son gouvernement et les intérêts de son pays. Quand l'ancien Premier ministre italien parle de cette affaire, il tacle immédiatement l'Italie. Si j'étais italien, je me demande ce que je penserais d'un commentaire ainsi fait par un ancien responsable du pays et dénonçant mes propres compatriotes.
Voilà, et sur Di Maio chez les Gilets jaunes, Bernard Guetta.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Monsieur Di Maio est un homme, je ne dirais pas en perdition, mais en pleine dégringolade. Il y a deux partis qui forment la coalition gouvernementale italienne actuelle, la Lega, un mouvement à l'origine, en tout cas, d'extrême droite, à mes yeux toujours d'extrême droite, mais c'est un débat.
Et ça, c'est Di Maio.
Et puis non, ça c'est la Lega et Monsieur Di Maio et
Salvini
excusez-moi. Et Monsieur Di Maio est le patron du mouvement 5 étoiles. Quand les deux partis sont entrés en coalition, le mouvement 5 étoiles était le parti dominant.
Absolument.
Contre la Ligue. Aujourd'hui,
genre
chaque
23,
jour,
18, ou quelque chose comme ça.
Oui. Aujourd'hui, chaque jour ou presque, en tout cas chaque semaine, la Ligue progresse dans les sondages, tandis que le mouvement 5 étoiles dégringole.
Genre 30-15.
Exactement. Pourquoi le rapport de force est complètement renversé. Pourquoi est-ce que M. Di Maio est allé faire cette visite, effectivement assez étrange, en France, à Montargis, aux Gilets jaunes? Tout simplement parce qu'il a pensé, à tort ou à raison, à mes yeux à tort, bon, enfin, qu'importe, il a pensé à tort ou à raison que ça pouvait l'aider à redonner, à redorer son blason personnel et surtout le blason de son mouvement en Italie. Je ne le crois pas, je ne le crois pas, mais nous avons là tout simplement la manifestation d'une crise politique en Italie qui menace la coalition, qui menace la coalition. À Rome, beaucoup de gens pensent que la coalition sautera entre les élections européennes et Noël prochain.
Et vous qui êtes spécialiste des us et coutumes diplomatiques, Vincent Herbouët, est-ce que vous pensez que le vice-premier ministre italien Di Maio a franchi quand même là une ligne jaune, si j'ose
la
dire.
La ligne jaune, c'est bien trouvé. Bravo, Olivier Duhamel a un esprit, mais même le samedi matin.
Quand je fais une blague, vraiment, alors, quasi nulle, quoi. Facile, mais non, c'est facile.
La ligne jaune, je ne sais pas, c'est énorme, mais je ne sais pas.
C'est le mot qu'on me féliciter pour me rabaisser.
Bon, arrêtez de discuter tous les deux, quoi.
Pas du tout. La ligne jaune, c'est l'expression qu'on entend depuis deux jours pour justifier effectivement le rappel de l'ambassadeur Massé. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme ligne jaune sur le plan diplomatique. Ce que je sais, c'est que le rappel d'un ambassadeur.
Il n'y a pas de précédent, quand même, Vincent.
Le rappel pour consultation.
Pour consultation.
Mais il n'y a pas de précédent, quand même, Vincent.
Après expulser l'ambassadeur d'Italie en France, qu'on pourrait renvoyer à Rome, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on peut faire de plus, si ce n'est carrément rompre les relations diplomatiques. C'est le dernier stade.
Mais vous êtes
donc, c'est un acte qui était sans précédent, qui n'avait jamais eu lieu.
Le rappel.
Aucune capitale européenne n'a jamais rappelé un ambassadeur qui était en poste dans une autre capitale
mais
européenne.
Mais l'acte d'avant n'avait jamais eu lieu non plus.
Ça n'était jamais arrivé.
L'acte d'avant n'avait jamais
eu
lieu. Le
fait de prévenir une heure avant, au lieu de le prévenir 8 heures avant, 15 heures avant.
Non, je ne parle pas de prévenir. Je parle d'un très haut responsable d'un gouvernement, vice-premier ministre, allant soutenir des gens qui demandent le renversement du chef de l'État du pays dans lequel
vous
avez.
Mais vous n'avez pas l'impression que cette ingérence. Elle est devenue permanente. Vous n'avez pas remarqué que les uns et les autres vont faire campagne dans le pays voisin, en tout cas expriment des opinions, soutiennent tel ou tel mouvement, qui a des partis européens qui s'appellent le PPE.
Oui, qui demandent le renversement.
Non. Oui, d'accord.
C'est ça, vous voyez, c'est la dimension.
Je vois, il a rencontré n'importe qui. En plus,
il a rencontré celui qui appelait
à mettre des militaires à la place du pouvoir civil en France.
Mais bon, il savait même pas à qui il s'adressait. Il voulait voir Madame Levavasseur. Il n'a pas vu Madame. C'est n'importe quoi. Ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi.
D'accord.
Et le papier qu'il a donné, la petite papier qu'il a donné hier dans Le Monde, pourquoi j'ai voulu rencontrer des représentants des Gilets jaunes et l'explication de ce n'importe quoi qui n'est absolument pas convaincante. Donc moi je ne vais pas me faire l'avocat de Di Maio.
D'accord.
Ce que je dis c'est que la sanction qui a été prise, elle est sans précédent. D'accord. Et elle sera sans lendemain.
Et elle sera sans lendemain. Ne sera pas sans lendemain une autre déchirure de l'Europe qui décidément ne s'accorde sur pas grand chose à propos du Venezuela dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et vos deux invités, l'éditorialiste à Europe 1 Vincent Herbouët et l'écrivain et journaliste Bernard Guetta.
Venezuela, deux présidents, le président de l'Assemblée qui s'est proclamé président de la République, le président de la République Maduro qui dit que c'est un coup d'État. Les médias se déchirent. En France, on a rarement vu un tel contraste entre les unes des médias de gauche et des médias de droite que sur le Venezuela. Il y en a en tout cas qui n'a pas de doute, c'est Mélenchon.
C'est pas une bonne chose de reconnaître un aventurier qui se proclame président de la République, comme l'a fait ce monsieur là. Où on va si on fait ça, hein? Demain, monsieur Drouet sera président de la République, non? Si on utilise des méthodes pareilles, une manif, et derrière, on change le pouvoir.
Ah oui?
Et donc, les dirigeants européens eux-mêmes ne sont pas d'accord, puisqu'une partie d'entre eux soutiennent le nouveau président autoproclamé. Guaido, c'est comme ça que ça se prononce, je crois.
Guaido, je ne sais pas.
Comment qu'il reste ?
D'autres, très peu soutiennent ouvertement Maduro, mais d'autres dénoncent le coup de force et surtout dénoncent la prise de position en disant qu'il faut rester neutre.
Oui.
Vincent Herbouët.
Et nous, on est les seuls à être à la fois à Montevideo, où se tenait donc une sorte de dialogue entre des pays latino-américains qui veulent jouer le rôle de médiateur, et en même temps à être avec ceux qui ont, dès le début, dénoncé à la fois Maduro et soutenu Guaido. C'est-à-dire qu'on a une posture qui est un peu bizarre, sans compter les pays qui, comme le Mexique, veulent rester totalement à côté, sans compter le Vatican qui éventuellement se réserve pour plus tard, et sans oublier les Américains, parce que quand même, l'actualité, c'est que la situation se tend énormément.
C'est que Trump dit que l'intervention militaire
toutes les options sont sur la table, il l'a dit dès le départ. Et aujourd'hui, maintenant, M. Guaido dit qu'il est prêt,
il attend l'intervention,
il envisage, oui. Il envisage oui. De faire appel effectivement à l'armée. Oui. Donc on est dans une histoire...
À l'armée américaine.
À l'armée américaine, oui. Bien sûr, parce que l'armée vénézuélienne...
Parce que son appel à l'armée vénézuélienne,
l'armée vénézuélienne, il y a fait appel
a
tout
répondu,
de suite.
Elle n'a pas répondu, malgré l'amnistie.
Mais pour cause, elle est le cœur du
oui,
régime.
Je sais bien, je sais bien.
Elle est le cœur du régime.
C'est elle est nourrie par le régime.
C'est pas Maduro le corrompu.
Les par le régime. Du peu qu'il reste pour gaver.
Oui, même les soldats de base.
Et moi, je vous ai entendu, Bernard Guetta, et j'ai reconnu le fond de votre anti-impérialisme de jeune
vous
homme.
Vous l'avez entendu où?
Non
Non, moi je suis assez favorable au renversement de M. Maduro. Je crois
que
c'est
y compris par l'armée américaine.
Non, ça
ah,
non.
Quand voilà. Même.
Ça serait dangereux. Ça serait extraordinairement dangereux. Ouf. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans cette crise, c'est que le Venezuela n'est pas seulement une crise vénézuélienne aujourd'hui. Le Venezuela est une crise régionale en Amérique latine parce que sur 30 millions de Vénézuéliens, il y a déjà 3 millions de réfugiés dans les pays limitrophes. On est peut-être à la veille d'une syrianisation, si vous me passez le néologisme, d'une syrianisation de la crise vénézuélienne, d'une part, parce que il y a un danger de guerre civile, évidemment, il y a un danger de guerre civile, et deuxièmement, il y a un danger patent de régionalisation de la crise.
Et croire que l'intervention américaine arrangerait les choses...
Ça, je ne vous l'ai pas dit.
Absolument. Alors, vous me direz, il y a d'autres sujets sur lesquels l'Europe aujourd'hui se porte mieux. Par exemple, le Brexit. Que nenni ! Là, c'est à cause des Britanniques qui sont totalement incapables de trouver une solution. Écoutez le président du Conseil européen sur Europe 1 le 6 février.
Il reste 50 jours avant la sortie du Royaume-Uni. Je crois fermement que l'on peut trouver une solution commune et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Mais le sens des responsabilités exige de se préparer aussi à un possible fiasco. D'ailleurs, je me demande à quoi ressemble la place réservée en enfer pour ceux qui ont fait la promotion du Brexit sans un plan sérieux pour le réaliser dans de bonnes conditions.
Vincent, en fait, je vais vous poser la question... que je déteste quand on me la pose à moi, parce que c'est une question d'évaluation, de prévision. Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'éviter le no deal, et donc tout le fracas et tout le désordre et tout le chaos qui ira avec, ou chaque jour qui passe, cette possibilité devient évanescente?
Alors, au point où on en est, quelle que soit la sortie de la crise, et même si c'est la pire, ce sera presque un soulagement. Hier, il y avait... le président du MEDEF, Ruud Bézieux, qui parlait de la fatigue des entreprises. Il était à Londres, il expliquait la fatigue. Et c'est vrai que cette histoire devient obsédante. On ne parle que de ça, on ne voit que ça dans les affaires européennes. Et plus on en parle, moins on comprend. Même à la rigueur, l'histoire du filet de sécurité sur lequel tout le monde se polarise devient à la rigueur presque absurde et presque incompréhensible. C'est un peu comme, vous savez, il y avait la feuille de route dans le processus de paix, des formules figées. Maintenant, il y a le filet de sécurité, qui est un truc qui devient totalement évanescent. Et on comprend pas très bien, parce que si ça marche pas, eh bien, il y aura le no deal. Et donc, ce que les Irlandais ne voulaient pas savoir, la règle, construction d'une frontière, la vraie frontière avec des miradors, des barbelés. Ouais. Donc, c'est une espèce de, c'est l'occlocratie. Tout le monde parle, personne n'écoute, tout le monde décide, nul ne fait rien. Et plus ça avance, moins on comprend. Donc, il y a effectivement l'impression que de ce chaos ne peut sortir que le pire ne sera pas décevant, parce que le pire a toujours de l'imagination. Et il y a de bonnes raisons de s'angoisser, parce que, et c'est ça la question que ce à quoi personne n'a jamais n'est capable de répondre, quelles conséquences pour les intérêts français?
Et alors,
français,
si vous permettez,
français,
Bernard Guetta,
30 000 entreprises,
absolument,
3 000 salariés.
Absolument. Hein, mais Bernard Guetta, peut-être que là-dessus, pour une fois, si j'ose dire, c'est pas l'Europe qu'il faut mettre en cause, c'est surtout le dérèglement de la démocratie britannique, la mère de toutes les démocraties, parce que la négociation, elle a eu lieu, le compromis, il a été trouvé, et c'est au Parlement, et particulièrement à la Chambre des communes, que non seulement on le refuse, mais on est incapable de s'accorder sur une autre solution.
Je crois, Olivier, que le drame est encore plus profond que ça. Le drame, c'est premièrement que le débat sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne n'a pas eu lieu à Londres avant le vote, mais il a commencé après le vote. Avant le vote, Les partisans du Brexit disaient « mais c'est formidable, on sort de l'Union européenne et on rase gratis ». Et on s'aperçoit maintenant que, premièrement, on ne rase évidemment pas gratis, et deuxièmement, que ça pose énormément de problèmes à l'économie britannique et accessoirement aux autres économies européennes, et en premier lieu, françaises. Deuxième drame de cette histoire, ben, vous l'avez dit, le Parlement britannique, les forces politiques britanniques sont absolument incapable de se mettre d'accord sur une solution de sortie de la Grande-Bretagne, sur la forme de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, pour la simple raison que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne aura un coût considérable ou gigantesque, je vous laisse le choix, pour la Grande-Bretagne.
Et pendant ce temps-là, il y a encore un autre dirigeant d'un autre pays qui nous attaque, qui nous critique, en s'emparant du feuilleton Gilets jaunes. Quel autre pays ? Quel autre dirigeant ? Réponse dans quelques secondes, minutes.
Jusqu'à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1. Et ce 9 février, vous recevez Olivier Duhamel, Vincent Hervouette, éditorialiste à Europe 1, et Bernard Guetta, écrivain et journaliste.
Et je ne reçois pas, mais j'écoute Paul Lassène qui prépare cette émission avec moi et qui est allé regarder qui d'autre venait nous chercher sur les Gilets jaunes. Et il a trouvé, après la décision d'Emmanuel Macron de commémorer le génocide arménien chaque année le 24 avril, le président turc Erdogan. La Turquie a condamné cette décision et a déclaré: nous condamnons et refusons les tentatives de M. Macron, qui connaît des problèmes politiques dans son pays, de transformer en affaires politiques des faits historiques pour sauver la mise. Donc, quand vous avez un mouvement de gilets jaunes, vous n'avez qu'à la boucler sur le génocide arménien. En gros, c'est ce que ça veut dire.
Et quand M. Erdogan a des problèmes de politique intérieure, et Dieu sait qu'il en a, il tape sur les Kurdes, mais militairement.
Mmh. Vincent Hervouette.
C'est fascinant de penser que la Turquie est toujours membre de l'OTAN alors que M. Erdogan est le dernier ami de M. Maduro à l'intérieur de l'Alliance. C'est
Poutine.
Fascinant. Oui, mais Poutine n'est pas membre de l'OTAN. C'est fascinant, ni la Chine. C'est fascinant de penser que toutes sortes de groupes, de lobbies, de partis, d'intellectuels, de militants, de journalistes ont milité pendant des années pour que la Turquie intègre vite, l'Union européenne à tout prix. Quand on regarde la réalité de ce qu'est devenu le régime, ça nous impose peut-être un peu d'autocritique.
Et alors si, vous me faites prendre un peu de recul et poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, accentué par l'élection de Donald Trump et son unilatéralisme, est-ce qu'il n'y a pas une dislocation généralisée, finalement? Parce que, si je récapitule un peu ce que
de l'Alliance
entendu,
Atlantique, vous voulez
dire? Non, plus
que
ça.
Parce que c'est le cas. C'est
je
le
veux
cas.
Dire, d'un côté de l'Alliance Atlantique, évidemment, de l'Alliance Atlantique, avec la Turquie membre de l'OTAN qui se comporte comme si elle était membre du Comecon, enfin j'exagère, mm-hmm. mais comme si elle était l'alliée de la Russie. Mais avant dislocation, n'exagérons rien, mais division sans précédent au sein de l'Union européenne, ça on peut dire, division sans précédent. Quand on s'attaque les uns les autres, quand on va soutenir ceux qui vous s'opposent à vous, quand sur le Venezuela, quand on n'a pas de position commune en général, on essaye d'être silencieux, mais on affiche ouvertement des positions contradictoires. Qu'est-ce qui tient finalement ? Est-ce que les ensembles, les éléments de position commune sur la scène internationale, je ne parle même pas de l'ONU, ne sont pas en train de se décomposer les uns après les autres?
Il me semble que, si Vincent permet, que toutes les organisations multilatérales sont en train de s'affaiblir gravement ou d'être gravement affaiblies, notamment par M. Trump, que les puissances qui s'affirment aujourd'hui sur la scène internationale sont évidemment les pays continents. Premièrement, les États-Unis, deuxièmement, la Chine, troisièmement, l'ex-Union soviétique qui voudrait en renaître sous forme d'un empire russe, et que si nous, Européens de l'Ouest, citoyens des démocraties occidentales, continuons à déstabiliser l'Union européenne, notre propre Union, nous ne pèserons pas du tout, mais plus du tout, face à ces pays continents.
Sur ce point très précis, Vincent Hervouet, est-ce que vous êtes d'accord avec Bernard Guetta ou est-ce
l'émiettement
que vous
du monde, le fait que les sous-ensembles flous...
Le dernier point, que si l'Europe ne constitue pas, elle aussi, une forme de cohésion sur le plan international, elle ne pèsera rien face aux pays empires qui sont en train de se reconstituer.
D'accord, bien sûr que l'Europe est absolument nécessaire, mais la question qui se pose aujourd'hui face à la mondialisation, qui réduit notre marge, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que toutes les forces à l'œuvre dans la mondialisation finalement handicapent, la France n'en tire aucun bénéfice, elle est plutôt affaiblie dans chacune des cases du jeu. Et moi, ce que je vois, c'est surtout les menaces qui pèsent sur la France, sur nos intérêts, notre sécurité, les menaces bien concrètes, la menace, par exemple, du djihad. Si vous regardez la scène au Moyen-Orient et le rôle de la Turquie, vous vous rendez compte que les alliés que l'on devrait avoir à nos côtés, la Turquie, par exemple, l'Europe, par exemple, ne sont pas à nos côtés et qu'on est assez seuls, finalement.
D'ailleurs, je note en passant qu'on vient de faire une opération militaire d'intervention au Tchad, si je ne me trompe pas, dont on a quasiment pas parlé.
Oui, ça me rappelle beaucoup les années Giscard, moi, ça.
Oui, sauf que dans les années Giscard, on se battait sur la bande d'Aouzou contre les tentatives de déstabilisation du Tchad par la Libye, alors qu'aujourd'hui, on se contente de conforter le régime tchadien, le régime du président Déby, qui est notre allié dans la guerre aux djihadistes, justement au Sahel. On se contente de le conforter contre une opposition armée.
Ben, on se contente de conforter un homme qui est totalement indispensable à notre sécurité internationale.
Oui, oui.
C'est-à-dire que alors, c'est sans doute cynique.
C'est sans doute cynique, mais en politique internationale et qui n'aimait pas tellement les postures moralistes, vous préférez. Bah,
surtout quand elles sont inefficaces. Voilà, surtout quand elles sont contre-productives, voilà. Comme
donc
avec l'Italie.
Donc là, vous êtes d'accord avec Bernard Guetta.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on conforte celui qui se bat à nos côtés. Très effectivement. Bien. Et on évite de le laisser déstabiliser par d'autres assassins.
Allez, il nous reste encore à faire un petit coup de Trump avant la chanson, dans quelques instants.
L'éditorialiste Europe 1 Vincent Hervouet et l'écrivain et journaliste Bernard Guetta sont vos deux invités ce matin, Olivier Duhamel dans Mediapolis.
Et Alice Baudry, qui suit pour nous les médias internationaux, a regardé comment on avait commenté, Alice Baudry qui dirige la stratégie et le développement à l'Institut Montaigne, comment on avait commenter le discours annuel du président des États-Unis devant le Congrès, le fameux discours sur l'état de l'Union. Jonathan Roche, expert à la Brookings au sein du programme Governance Studies, a publié une analyse qui résume bien les choses. Selon lui, le discours de Trump a montré à quel point il s'agissait d'une pie idéologique. Hochement de tête à gauche, baisse du prix des médicaments, nouvelles infrastructures, tarifs réciproques, congés familiaux payés, élimination du VIH, SIDA, plus d'argent pour le cancer, autonomisation économique des femmes dans les pays en voie de développement. Hochement de tête à droite, libre choix de son école, restrictions sur l'avortement, le mur, le mur, le mur, le mur. Pour les colombes, pour parler de paix et retrait de troupes en Afghanistan et en Syrie, et faire ami-ami avec la Corée du Nord. Pour les faucons, l'Iran, la suppression du traité sur les armes nucléaires intermédiaires et America First. Voilà le sujet, il était dans le discours, vous le nommez, l'état de l'Union. Sinon, il n'a pas tellement avancé dans la définition de son agenda. Messieurs.
Premièrement, Monsieur Trump a confirmé qu'il était Monsieur Grand N'importe Quoi. Et deuxièmement, Monsieur Trump a montré un affaiblissement de sa situation sur la scène politique intérieure américaine. Le blocage du budget fédéral pendant 3 semaines, plus de 3 semaines, me semble-t-il, a été premièrement un record et deuxièmement un échec pour le président Trump dans la bataille entre les démocrates et lui sur pour la conquête de l'opinion publique américaine. Alors, donc forcément, dans son discours sur l'état de l'Union, il a arrondi les angles. Il a essayé de montrer patte blanche. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas.
Ça a marché.
Ça a marché ?
Mais ça a très bien marché. Regardez les sondages. CNN, 59% d'Américains très satisfaits. Et si vous prenez uniquement les indépendants, ils sont 73%.
Pardon, c'est un tabac. Du discours ou en général ?
Oui, du discours.
Ah, du discours.
Ah, voilà. Le discours, le sondage CNN.
Parce que comme il était à 37, en il ne peut pas avoir 15 points.
Vincent, le problème pour Trump, c'est qu'il ne sait pas jouer le radical socialiste. Son problème, c'est que son succès tient au scandale.
Ah bah exactement, ça, le scandale, il est servi parce que l'enquête se resserre autour de lui.
Comme Jean-Marie Le Pen au début du Front National.
Vous voulez dire la transgression permanente.
La transgression permanente.
Ouais. On est tous dans la transgression permanente. Ah, la France est dans la transgression permanente.
C'est vrai.
Parce que je suis complètement d'accord avec vous. Personne aujourd'hui n'arrive à croire qu'il fasse un deuxième mandat. Parce que franchement, l'enquête se resserre à tel point. La contestation est tellement permanente. Regardez les 15 jours qui viennent de s'écouler où vous avez eu les services de ses propres services de renseignement en train de mener un véritable réquisitoire devant le Congrès sur toutes les grandes options de politique étrangère qu'il a prises. Ensuite, le Sénat, les républicains du Sénat qui le désavouent. Donc vraiment, il est seul.
N'oubliez pas, Vincent, dans son discours, sa base lui reste fidèle.
Il dit « Choisissez la grandeur au congressman ». Il est applaudi par les Américains. C'est important, mais la suite, franchement, on a du mal à y croire.
L'érosion est là, vous pensez ?
À suivre, messieurs, bien sûr, et avec vous, tellement c'est un plaisir de vous écouter. Pour terminer, une chanson de Hélène Ségara en 2006. Elle avait été en top vente des chansons en France. Elle s'appelle « Quand l'éternité ». Et pourquoi je vous ai choisi cette chanson ? D'abord parce que Hélène Ségara est la marraine du Phonéton 2009 organisé par le Fonds arménien de France au profit de projets humanitaires en Arménie et au Haut-Karabakh. Et que donc Emmanuel Macron a décidé de faire du 24 avril la journée de commémoration du génocide arménien. Et puis, vu le texte de la chanson, je ne la dédie pas seulement à nos amis arméniens, mais à tous ceux qui ont perdu un être cher. Merci à tous, à Julien Blanc qui a réalisé cette émission, à Paul Lassène qui l'a préparée, à Bernard Guetta et Vincent Herouet qui l'ont fort bien animé. Et faites-le savoir à vos amis, ils peuvent écouter l'émission en podcast sur europe1.fr. C'est très facile et ça va vite.
Merci.
Bravo Olivier.
À samedi prochain.
Merci Olivier Duhamel. Rendez-vous en effet samedi prochain pour un nouveau Mediapolis à 10h.